Alors, je commencerai par un romancier connu, Philippe Delerme, peut-être que vous le connaissez un peu. Et il se contente, ce Philippe Delerme, je le cite, « du bonheur étonnant d'un raisin couvert de rosée, volé en douce au coin d'une vigne de Chasselas par le chasseur après des heures de marche. » Il écrit ça dans un livre dont le titre est simple, c'est « Le bonheur ». Et déjà, il avait eu un très très grand succès avec un livre qui reprend bien cette idée, « Une gorgée de bière et les plaisirs minuscules ». Je voudrais partir de là. Nous avons tous de ces petits plaisirs. Alors, est-ce le bonheur ? Kant, par exemple, contestera que ce puisse être le bonheur. Il voit dans le bonheur quelque chose qui est plus durable, moins instantané que le plaisir. Mais ça me paraît plus de la sémantique que de la philosophie, ça. Je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas l'appeler le bonheur. Pourquoi quelqu'un, un philosophe, décréterait que ce ne serait pas le bonheur ? C'est un problème de sens des mots. En revanche, qu'est-ce que le plaisir ? Alors, deux choses claires à ce sujet. La première, c'est que le plaisir n'a pas besoin de se justifier. Il s'auto-justifie parce qu'il est le plaisir. Il n'a pas besoin de dire pourquoi j'aime le plaisir. Le plaisir, par définition étant le plaisir, il n'a aucune justification à donner. Il est une fin en soi. Mais quel est son mode opératoire ? Son mode opératoire, c'est toujours l'apaisement. C'est aussi ce que dit Freud dans toute son œuvre. Le plaisir est une diminution de tension, un repos, une paix, une stabilité, une immuabilité. Et finalement, Delerme, dans ce même livre, Le Bonheur, va reprendre le mythe de Sisyphe, qui avait été remis à la mode par Albert Camus. Et Camus, vous le savez, célèbre phrase qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs, « il faut imaginer Sisyphe heureux ». Et Delerme me dit, ben, je suis d'accord, il faut imaginer Sisyphe heureux, mais à ceci près, dit Delerme, que Sisyphe puisse, je le cite, que Sisyphe puisse s'arrêter quelques secondes de pousser sa pierre. Bonheur, je continue de le citer, bonheur du corps, grand vide dans la tête, le vent sur le visage et l'odeur de la terre. Ça ne suffit pas. Pour Delerme encore, parce qu'il dit que la première étape du bonheur, alors c'est surprenant parce qu'il vient de nous dire que c'est un plaisir-apaisement, quelques lignes plutôt. Mais là, il va nous dire la première étape du bonheur, c'est, je le cite toujours, avoir quelque chose à pousser, à planter, à cueillir, à travailler, à inventer, à aimer peut-être. Donc, l'action fait partie de ce bonheur. Il n'y a pas que l'apaisement. Il y a même l'apaisement, c'est l'apaisement après l'effort, l'apaisement après l'action. Et l'action est tout le contraire du plaisir-apaisement. L'action, ce n'est pas le calme plat. L'action, c'est le changement. L'action, c'est un certain risque. L'action, c'est une ouverture à ce qui est différent, une ouverture à l'altérité. Ce qui est le contraire, donc, apparemment du plaisir. Et le plaisir, donc, n'est pas le repos, mais il est l'apaisement après l'action. Le plaisir n'est pas le repos, mais il est aussi préparation à l'action. Avant l'action, il dit, Delerme, mesurer l'effort avant de repartir. Mesurer l'effort avant de repartir. Le bonheur, donc, s'inscrit dans ce que les philosophes appellent une dialectique. Donc, le bonheur s'inscrit dans une dialectique de l'apaisement d'un côté et du don de soi à l'action de l'autre, à l'effort, au dépassement de soi. Et cela me mène à la première partie où on va essayer de définir quels sont ces deux pôles du bonheur. Le pôle apaisement et le pôle ouverture à l'altérité. Ça nous vient de Platon. Platon qui a, inventé cette idée de dialectique de l'un même, L'un, c'est l'unité, le même, c'est l'identité. La dialectique de l'un même et de l'autre multiple. L'autre, l'altérité, le multiple, la multiplicité. Qui a été reprise, cette dialectique, par toute l'histoire de la philosophie. Je voudrais quand même préciser qu'est-ce que ça veut dire, ce même, cet autre, ce multiple. Alors, d'abord, la fermeture sur le même, c'est-à-dire la fermeture sur une identité protégée, mon identité protégée. C'est tout autant l'apaisement du corps que la découverte, par exemple, intellectuelle d'un repère éternel du vrai et du bien. Intellectuellement, ça me rassure que d'avoir un repère sûr. C'est de l'ordre du même, c'est de l'ordre de l'identité. Le même caractérise ce qui est immuable, ce qui est fixe, éternel, ce qui est toujours identique à lui-même, ce qui est stable, ce qui est absence de contradiction, absence de mouvement, absence de tension, absence de changement. C'est le confort, la tranquillité, la maîtrise de soi et du monde, l'invulnérabilité. Voilà ce que est la fermeture sur le même, et qui peut être un plaisir, qui peut être un bonheur, on verra après. L'ouverture à l'autre, c'est tout à fait différent. L'ouverture à l'autre, c'est le goût du risque plutôt que la peur des risques. L'ouverture à l'autre, à l'altérité, au caractère de ce qui est autre, l'ouverture donc à l'autre est don de soi à quelqu'un d'autre, ou même à quelque chose d'autre, don de soi à un art, à un sport, à une cause sociétale ou une cause politique. L'ouverture à l'altérité est perdition, une perdition, mais une perdition exaltante de soi dans l'action. Je me risque dans l'action. L'altérité, l'autre, caractérise ce qui n'est pas moi, ce qui n'est pas contrôlé, c'est le contraire du même, hein, ce qui n'est pas maîtrisé, ce qui change, ce qui grandit ou périt, ce qui bouge, ce qui rompt, ce qui coupe, ce qui déchire ou se déchire, ou ce qui est ailleurs. Alors ce peut être l'aventure des désirs et des passions. Ce peut être aussi le sacrifice et le renoncement à soi pour se donner à ce qu'on aime. Si je trouve le bonheur dans l'ouverture et l'altérité, c'est forcément en m'y perdant, en cassant l'identité, en renonçant à moi. Ce peut être aussi l'extase spirituelle devant le mystère. L'ouverture au multiple, c'est l'action de celui qui se sent en forme et prend la vie à bras-le-corps, dans toute sa diversité et ses péripéties, un peu comme Zorba, dans Alexis Zorba de Kazantzaki. Il peut s'éparpiller et toucher à tout. Il préfère les individualités et les cas particuliers aux idées générales. Il préfère la fantaisie à la raison. Il peut ne pas se fixer et être intellectuellement curieux de tout. Il est éclectique, celui qui donne dans l'ouverture à la multiplicité et respecte la diversité. Le bonheur est directement engagé dans ces quatre conduites, hein, même, autre, l'un, le multiple. Il est directement engagé dans ces quatre conduites, toujours interactives en fait. Hein. Dans chacune d'elles, il peut être question du corps comme de l'esprit. Dans chacune d'elles, on peut y voir le bien tout autant que le mal. La quête du même et de l'un construit des clôtures solides, de sécurité organique, physique, intellectuelle. La quête de l'autre et du multiple tend à la perdition, on l'a dit, à la perdition joyeuse de soi, alors sans masochisme, ni suicide, comme on le constate dans l'amour et le dépassement de ses propres limites. Et chaque philosophe place son curseur du bonheur plus ou moins d'un côté ou de l'autre, de cette alternative. Le Christ, alors qu'il n'est pas un philosophe, mais se présente comme la révélation de la vérité divine, va faire exploser le curseur en projetant le bonheur dans une dynamique du don de soi qu'on ne retrouve ni chez ses précurseurs, les philosophes de l'Antiquité, ni dans la quasi-totalité de la suite de l'histoire de la philosophie, pourtant très largement imprégnée de christianisme. Je vais passer à la seconde partie, mais avant, on peut reprendre le paradoxe qui est dans le titre. Soit je me trouve en me cherchant, c'est-à-dire que je fais tout pour me rassurer, pour garantir mon avenir, pour mettre des sécurités autour de moi, aussi bien des sécurités intellectuelles. Je suis sûr de mes propres convictions, ça me rassure. Soit je me trouve en me cherchant, soit je me trouve en me perdant. La formule n'est pas de moi, elle est d'Emmanuel Mounier dans son petit livre « Le personnalisme » aux presses universitaires de France. Mais il est là le paradoxe du bonheur. C'est qu'on peut le trouver tout aussi bien dans l'apaisement, dans le repos, la tranquillité, la sécurité, la sécurisation, et on peut le trouver tout au contraire dans le don éperdu de soi à quelqu'un, ou à un art, ou à un sport, ou à une cause politique, par exemple. La deuxième partie, je voudrais vous présenter différents modèles de salut. Alors le salut, qu'est-ce que c'est? Le salut est un concept proche de bonheur, hein. Le salut, c'est le bonheur à atteindre. On ne l'a pas, mais il faut l'atteindre. Et actuellement, on serait, quant à cette idée de salut, dans un monde plutôt de malheur. Le salut serait la libération de ce monde de malheur. Alors vous avez, alors il y a beaucoup d'exemples, mais je ne vais pas les prendre tous. Dans l'Antiquité, je vais prendre Platon. Pour lui, le salut ne peut se faire que par la quête de l'absolu. Mais d'abord, une mise en garde. Entre nous et Platon, il y a 2,5 millénaires. Et donc, il y a un éloignement culturel très, très important. Et c'est ainsi que l'une des formes de bonheur du temps de Platon, pas forcément l'idée de Platon, mais du siècle de Platon, 4e, 5e siècle avant Jésus-Christ. C'est le kalos kagathos, et ce kalos kagathos est très surprenant. Il est incompréhensible en 2021. C'est l'idée que le vrai amour est le plein épanouissement. C'est qu'un homme masculin d'âge mûr vive en couple avec un jeune adolescent, lui-même masculin. Ça, c'est le modèle de l'amour. L'amour le plus dégradant, c'est entre un homme et une femme. Effectivement, c'est la pédophilie. Effectivement, on est à mille lieues d'arriver, pas simplement à être d'accord, hein, mais même à comprendre. Hein, on ne comprend pas. Hein, c'est pire qu'un désaccord. On ne comprend pas. Donc, je voulais dire ça parce que 2,5 millénaires, effectivement, il y a du temps qui passe. Hein. Autre exemple, mais là, je passe vite. c'est que Platon était très favorable à l'esclavage, comme Aristote d'ailleurs. Et pour lui, c'était une évidence, il n'y avait même pas débat, quoi. Hein, tout ça, c'est loin de nous. Mais Platon, pourtant, est un moderne. Alors, évidemment, pas avec ce que je viens de dire. Hein. Je voudrais un petit peu de comprendre avec vous où il veut en venir. Pour lui, il y en a marre, quoi, ça suffit. Nous ne pouvons plus vivre dans l'éphémère. On ne peut plus vivre dans le désordre. On ne peut plus vivre dans le temps qui passe, le relatif, l'imparfait, l'horizon de la mort. Vous connaissez ce poème de Ronsard, hein, sur la rose qui va bientôt se faner. Et le monde sensible, c'est-à-dire celui que nos sens perçoivent, le monde matériel, ben là, tout est autre et multiple. Tout est en changement. Tout est en désordre. L'âme humaine, elle désire l'absolu, l'immuable, le parfait, l'éternel, la vocation spirituelle de l'un et du même. Bien, c'est ce que nous dit Platon, lui, il a vécu entre 427 et 347 avant Jésus-Christ. Alors, ce n'est pas forcément ce que dit Socrate. Hein. On dit trop souvent dans les lycées que Platon serait le reporter de Socrate. Il y a deux philosophes distincts. Hein. Alors, c'est ce que nous dit Platon depuis donc, deux millénaires et demi. Et finalement, comment ne pas être d'accord avec cette perspective du bonheur, l'éternel, l'absolu, l'immuable, alors qu'on est dans un monde de zapping, du tout fout le camp. En plus, il nous montre le chemin. Le chemin, c'est celui des sciences mathématiques, au-dessus de son école, l'académie. Vous le savez, il y avait écrit « Nul n'entre ici s'il n'est géomètre ». Celui des sciences mathématiques qui discerne des idées, des théorèmes éternels, et l'idée de triangle, par exemple, elle est immuable, impérissable, trois angles, et elle est bien plus réelle, dit Platon. Elle est réelle, cette idée. Elle est bien plus réelle que les triangles en bois, qui sont forcément imparfaits, en bois ou en tout ce que vous voudrez, en bois ou en métal, ou en verre ou en poterie. Ces triangles matériels ne sont que les pâles reflets, il parle de pâles reflets, de l'idée géométrique, immatérielle et intelligible. Idée toujours une et identique. Je vais sortir un peu de Platon pour prendre un exemple qui sera mieux compréhensible. La loi de Newton, la loi de gravitation. Cette loi de Newton, qui nous dit par exemple, mais ne vous effrayez pas, c'est très simple, x égale 1/2 de GT2, x c'est la distance en mètres de la chute d'un corps. 1/2, ben, c'est 1/2. Hein. G, c'est l'accélération de la pesanteur. T, c'est le temps, mais justement, c'est le temps au carré. Si on reprend cette formule, la chute d'un corps est égale à la moitié du produit de l'accélération de la pesanteur et du carré du temps, on est dans une totale abstraction. Quand je vois une tuile qui tombe, je ne me dis pas « Ah tiens, x égale 1/2 de GT2 ». C'est totalement invisible. Et là, on comprend mieux le platonisme. Les idées sont dans l'éternel, dans l'absolu, dans l'abstraction. Et les choses matérielles sont en quelque sorte quasiment irréelles. Elles sont fausses, parce qu'elles ne remplissent pas intégralement ce que peut être l'absolu. Et justement, ce que je voulais dire, c'est que c'est très moderne. les réalités immatérielles, alors théorèmes, lois, équations, régissent nécessairement la matière. Et la physique d'Einstein, Einstein qui a vécu donc entre 1879 et 1955, la physique d'Einstein semble, oui, corroborer cette métaphysique de Platon. Alors, même si, disons-le, ce qui est attribué à Einstein n'est pas toujours vérifiable, on rapporte cette réponse d'Einstein à une étudiante le 24 janvier 1936. Et voici ce que dit Einstein. Cette croyance en l'existence de lois fondamentales régissant la nature repose sur une manière de foi. Il n'en reste pas moins que cette foi est largement justifiée par les sciences et les succès de la recherche scientifique. D'autre part, tout individu réellement passionné par l'évolution de la science est convaincu de la présence d'un esprit derrière les lois de l'univers. Bref, j'arrête Einstein, l'idée précède la matière. La science n'est pas matérialiste. Le savant, le scientifique, n'est pas intéressé par la tuile qui tombe et qui va se casser. Il est intéressé par la loi immuable de la pesanteur. Et c'est cette loi immuable qui fait tomber la tuile. Bref, l'idée précède la matière et la matière procède de l'idée. C'est aussi ce que disent, et vous les connaissez, de façon beaucoup trop médiatique, voire inutilement provocante, les frères Bogdanov. Les frères Bogdanov qui, malgré leur excès, leur abus, tout ce que vous voudrez, sont cependant, dans leurs livres, préfacés par des prix Nobel. Eh bien, c'est ce que disent les frères Bogdanov en parlant de visage de Dieu ou au commencement du temps, qui sont des livres, hein. Plus exactement, nombre de physiciens envisagent avant le Big Bang une information. C'est comme ça qu'il l'appelle, une information de nature mathématique et qui précéderait le tout. Et le bonheur, il est là. Hein. Le bonheur, il est dans l'atteinte de cet absolu. Et comment y parvenir? Alors par la science, mais ça nous convainc pas trop. Mais le moteur qui va nous conduire à ces idées immuables, c'est le désir, et le désir de la beauté, qui est aussi bien d'ailleurs désir du vrai et du bien. Et dans Le Banquet, le plus célèbre ouvrage de Platon, dans Le Banquet, il y a toute une initiation, un parcours initiatique, pour atteindre ce bonheur où on part de l'amour d'un beau corps, mais il déçoit, à l'amour de tous les beaux corps, parce qu'on veut essayer de trouver cette beauté, mais ça déçoit tout autant. Puis, l'amour des belles actions, mais elles ne sont jamais si belles que ça. Puis, l'amour des belles âmes, c'est déjà mieux. Et puis, l'amour de la beauté en soi, qui ne peut être matérialisé ni dans une main, dit Platon, ni dans un visage, ni dans un paysage. Qui est l'idée de beauté, l'idée absolue de beauté, une mystique de la beauté. Et là, on atteint en quelque sorte le sommet de cette quête de l'absolu de Platon. La deuxième époque que j'évoquerai, c'est l'époque moderne, et là je prendrai Descartes, le salut par la science et la liberté individuelle. Mais auparavant, je voudrais dire que notre culture, qu'on appelle culture occidentale ou culture européenne, provient de deux parents, la culture gréco-latine et la culture judéo-chrétienne. qui vont mettre 1000 ans à se conjuguer, les 1000 ans du Moyen-Âge, et c'est Descartes, le premier occidental, qui fait la synthèse des deux courants. Alors, il a beaucoup de prédécesseurs, hein, ça dure pendant 1000 ans, qui fait la synthèse du courant gréco-latin et du courant judéo-chrétien. Qu'est-ce qu'apporte le courant judéo-chrétien ? Il apporte l'idée de liberté, mais il apporte aussi l'idée de progrès, et c'est moins connu. Toutes les civilisations du monde, quel que soit l'endroit et quelle que soit l'époque, toutes ont la même idée du temps, c'est le temps cyclique. C'est-à-dire jour-nuit, printemps, été, automne, hiver, et on recommence, printemps, été, automne, hiver, germination, évolution de la plante, périssement, graines, de nouveau naissance de la plante, et ça continue. De même dans le cosmos, les astres passent toujours régulièrement et reviennent. Bien, ce temps cyclique, c'est le temps naturel. Sauf que ce n'est pas le temps occidental. On est la seule exception, mais une exception qui est en train de conquérir la totalité de la planète. On est la seule exception dans l'univers à avoir comme idée du temps le temps linéaire, c'est-à-dire qui va d'un passé à un futur en passant par un présent, et le futur est autre et meilleur qu'aujourd'hui. Cette idée linéaire, du temps linéaire, c'est l'idée biblique du temps. Et le pape François, par exemple, hein, je ne peux pas les citer tous, mais le pape François a une phrase très claire à ce sujet. Il dit, dans son homélie du 31 décembre 2013, il n'y avait pas longtemps qu'il était pape, « La vision biblique et chrétienne du temps et de l'histoire n'est pas cyclique, mais linéaire. C'est un chemin qui va vers l'accomplissement. » Donc, précision du pape d'aujourd'hui, hein, sur ce temps linéaire. Les Grecs vont amener l'usage systématique de la raison. Il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire au 4e, 5e siècle, 5e, 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est qu'il y a eu l'Acropole, mais il n'y a pas que l'Acropole. Il y a tous les mathématiciens, Pythagore, Thalès, les historiens, Thucydide, l'invention de la comédie, l'invention de la tragédie, Sophocle, Euripide, Eschyle. Ils inventent tout, y compris la démocratie, Périclès, enfin, la démocratie. Il y avait l'esclavage quand même, hein. Nous, quand il y a l'esclavage, on ne dit pas que c'est la démocratie. Mais vu à l'époque, c'était considéré comme, effectivement, la démocratie, Périclès. Il y a une énorme avancée scientifique et rationnelle, alors que les Gaulois, par exemple, à la même époque, au même siècle, hein, vivent dans des huttes ou dans des grottes. Hein. C'est-à-dire que le décalage entre Athènes et le reste du monde est bien plus grand que le décalage aujourd'hui entre la Californie et le Bangladesh. Hein. Bien plus grand. Et les Grecs amènent donc... seulement, ils ne font pas du progrès une valeur fondamentale. Hein, ils inventent le fait que, par des multiplications de poulies, on peut faire avancer un très gros bateau en le tirant par le petit doigt dans le port. Mais ils n'en font rien de pratique. Hein. Ça les amuse. Hein, ils applaudissent dans le port du Pirée. Ils tirent, il y a le bateau qui bouge, ils tirent avec le petit doigt. Mais... ils n'utilisent pas, ils font pas du progrès une valeur culturelle. Alors Descartes, lui, va assimiler les deux et il va expliquer que l'homme peut se rendre maître et possesseur de la nature, c'est sa formule, et qu'il peut se rendre maître et possesseur de la nature par la science mathématique. Et il s'y met lui-même, hein, un grand mathématicien et physicien, et que le salut... ne vient pas forcément du Christ ou de ce que raconte la Bible. Le salut, il viendra de la médecine. Le salut, il viendra de la science, il viendra de la technique. C'est ce que nous dit Descartes. Alors, il est quand même croyant, parce que ça se fait pas de ne pas l'être là. Hein. Déjà, il est en danger, déjà, hein, Descartes. Il se balade dans toute l'Europe pour fuir, pour ne pas se faire arrêter. Il est croyant. Dieu lui sert, d'ailleurs, dans sa philosophie. Dieu lui sert à garantir la vérité de ce qu'il pense. C'est pratique, ça. Si je pouvais avoir un Dieu, moi, qui garantisse la vérité de ce que je pense, je serais content. C'est un peu ça, lui. Mais on voit bien qu'il y a un changement de salut et qu'en 2021, Descartes a gagné. On vit dans le monde de Descartes. On est dans le monde où le salut passe par la science, la technique et la médecine. Y compris, d'ailleurs, le salut écologique, qui passe encore par la science, la technique, etc. Il n'y a qu'à voir, par exemple, le débat sur les éoliennes. Maintenant, pour comprendre le débat sur les éoliennes, il faut avoir Bac plus 5 en physique. Alors que ça n'en vaut pas forcément la peine d'aller jusque-là pour essayer d'avoir une idée sur les éoliennes. Descartes va nous inventer une idée de salut. Le troisième modèle, c'est le modèle d'aujourd'hui, modèle contemporain, les utopies écologiques. Attention au mot utopie. Utopie a souvent été pris, utopie ça veut dire en grec non-lieu. Utopie a souvent été pris dans un sens quasiment péjoratif. Une utopie, c'est une idée folle, hein, irréalisable. Enfin, c'est pas ça le sens de l'utopie. Hein. Le sens de l'utopie, c'est de projeter une idée dans l'avenir, d'y croire, de vouloir l'atteindre, mais en sachant que tout n'est pas résolu. C'est là la différence avec l'idéologie. L'idéologie, c'est l'avenir et le bonheur clé en main. Le marxisme, par exemple. L'utopie, c'est il faudrait tendre vers ça, mais on ne sait pas trop comment. C'est ça, l'utopie. Et il y a une utopie aujourd'hui écologique qui tient au basculement de 1955. En 1955, meurt, à Pâques, le jour de Pâques, Pierre Teilhard de Chardin. Et Pierre Teilhard de Chardin, c'est le triomphe maximal qu'on peut donner à l'idée de progrès. Puisque, pour lui, on part de la lithosphère, c'est-à-dire d'un monde de pierre, d'un monde matériel, à la biosphère, la vie apparaît, ça se complexifie. De la biosphère, on passe à la noosphère, apparition de l'homme, c'est encore beaucoup plus complexe. Et enfin, on tend tous en ce moment vers la christosphère, c'est-à-dire le moment où l'humanité aura la maîtrise scientifique et technique totale de l'univers et en même temps l'unité pacifique politique. Il a été mis à l'index, mais vous savez qu'il a été réhabilité particulièrement par quelqu'un d'inattendu pour le réhabiliter, c'est Benoît XVI. Benoît XVI, dans une de ses encycliques, cite Teilhard de Chardin, ce qui a été une nouveauté. Teilhard de Chardin meurt en 1955. Et la même année, Claude Lévi-Strauss publie un best-seller, Triste Tropique, qui n'est pas forcément un livre de philosophie, qui est un livre d'ethnologie, un livre d'aventure, dans des tribus dites primaires, puisqu'on dit primaire maintenant, on dit plus primitif. À la fin de ce livre, Triste Tropique, Lévi-Strauss a cette formule, au lieu de dire anthropologie, on devrait dire anthropologie. Ne vous affolez pas, j'explique. Au lieu de dire anthropologie, écrit A-N-T-H-R-O, c'est-à-dire science de l'homme, au lieu de dire anthropologie, science de l'homme, on devrait dire anthropologie, écrit cette fois-ci ENTROPO, la science de l'entropie. L'entropie, c'est l'affirmation par tous les scientifiques que le monde va à sa perte. C'est l'affirmation qu'il y a une dégradation des énergies et des structures de la matière. Que, par exemple, la Terre s'éloigne du Soleil, que le Soleil va s'éteindre, que les électrons foutent le camp par rapport au noyau, etc. Rassurez-vous, ce n'est pas pour demain, quand même. Mais c'est vrai, hein, le Soleil va s'éteindre. Et donc, ce que veut dire Lévi-Strauss, c'est que l'homme est au service de l'entropie. L'homme accélère l'entropie. L'homme détruit la nature. Et ça, évidemment, c'est une idée neuve, contraire, mais alors absolument contraire, à l'idée de Teilhard de Chardin. Là, il y a un basculement qui fait que Teilhard de Chardin, peu à peu, va être un peu oublié, alors que Lévi-Strauss va devenir un intellectuel international très, très connu. Et l'idée écologique, c'est l'idée d'abord d'un réenchantement du monde dans l'utopie écologique. C'est l'idée aussi un peu religieuse. Alors, il n'y a pas Dieu, mais il y a une transcendance. L'idée que on a des comptes à rendre à une humanité qu'on ne connaît pas, qui est celle dans 5 siècles ou 5 millénaires. Il y a une transcendance de l'humanité, là. Et l'homme d'aujourd'hui se dit qu'il y a un sortir de soi. Il y a peut-être une ouverture à l'autre. Il y a peut-être un renoncement partiel à soi-même, à son confort, pour se donner à une humanité inconnue qui sera dans des millénaires. Et en particulier, il y a cette idée de sobriété. La sobriété, c'est un style de vie. La spiritualité chrétienne, dit le pape François, au paragraphe 222 de Laudato Si, la spiritualité chrétienne propose une croissance. Alors qu'on a souvent dit contre François qu'il était contre la croissance, ben, là je lis moi, hein, là, c'est paragraphe 222 de Laudato Si, il n'y a pas écrit qu'il est contre la croissance. La spiritualité chrétienne propose une croissance par la sobriété, ce que d'autres appelleront le développement durable, mais moi je veux parler de sobriété, et une capacité, alors ça c'est important, la sobriété il la définit. J'ai jamais trouvé une définition aussi simple et vraie de la sobriété. Capacité de jouir avec peu. La sobriété n'exclut pas le plaisir, n'exclut pas la jouissance, n'exclut pas le bonheur, mais jouir avec peu. Et la pandémie de la Covid-19 a fait naître l'espoir d'un avenir plus authentique, hein, plus vrai, moins artificiel, moins démesuré, moins frénétique, moins gaspilleur, moins polluant. Donc l'espoir d'une humanité plus sobre. Et il y va de la sauvegarde de la planète. La spiritualité de la sobriété est indispensable pour s'opposer au matérialisme de l'argent. Au matérialisme de l'argent et de la course effrénée à la richesse sans partage. C'est ainsi que le Christ déclare, et c'est très connu, « Nul ne peut servir deux maîtres, Dieu et l'argent. » Et dans la foulée, le Christ nous invite à nous comporter sobrement, c'est-à-dire comme les oiseaux du ciel et les lys des champs, c'est son expression, qui mangent et s'habillent sans frénésie de production et de surconsommation. C'est dans Matthieu, chapitre 6, verset 24-34. Cette sobriété spirituelle va dans le sens concret de la protection de la nature. Cette sobriété antimatérialiste va dans le sens concret du partage social des richesses. Et cette spiritualité favorise la diététique et aussi la maîtrise du corps par l'esprit. En pratique, la sobriété recherche la tempérance, le juste milieu. Le juste milieu entre l'indigence douloureuse et l'arrogance de la richesse. Or, c'est là une vertu chère à un autre philosophe de l'Antiquité, Aristote, 4e siècle avant Jésus-Christ, et donc une idée chère à saint Thomas d'Aquin, qui est d'abord chrétien, mais qui est aussi disciple d'Aristote. Cependant, faisons aussi attention de ne pas sombrer dans l'arrogance, une autre arrogance, de l'excès de zèle, qui consisterait à condamner de soi-disant faux besoins. Il y a certes de vrais faux besoins, tels que les jeux de casino par exemple, mais peut-on dire que la télévision est un faux besoin, que l'ordinateur est un faux besoin, que la voiture est un faux besoin, l'avion, Internet, le théâtre, la musique, les films, la danse, etc. sont-ils des faux besoins ? La sobriété nous invite à ne pas nous abrutir pendant des heures devant les possibilités infinies d'Internet, mais la sobriété n'interdit pas l'usage de ce moyen d'ouverture vers le monde. La sobriété ne cultive pas la frustration. Elle ne se confond pas avec l'austérité. L'austérité est une punition dans les prisons. Elle est une pénitence dans les monastères. Elle est une mise à la diète des populations pauvres et en faillite. Les austérités au Moyen-Âge, le sens du mot austérité, signifiaient les mortifications que s'imposaient certains chrétiens pour, selon eux, racheter leurs péchés. La sobriété n'a pas du tout cet aspect punitif, négatif. Jean-Baptiste de Foucault, certains le connaissent peut-être, qui est un militant chrétien, social chrétien, un ancien patron du plan, un ancien, comment les appeler, les commissaires généraux au plan, ça y est, j'ai trouvé ces commissaires généraux, parle, lui, d'abondance frugale. Elle est curieuse, cette formule. Abondance frugale. Expression qui se comprend mieux après ce long confinement qu'on a vécu, où nous avons consommé nettement moins, mais sans pour autant chercher à nous mortifier, sans même avoir l'impression de manquer gravement de quelque chose, sauf pour les plus défavorisés. Et Pierre Rabhi, ça s'écrit R-A-B-H-I, Pierre Rabhi, qui est un célèbre agroécologiste, parle en 2010, il a une autre formule qui va devenir célèbre, elle sera reprise par le pape même, de sobriété heureuse. Nous pouvons même dire, sans contradiction, que la sobriété est une qualité épicurienne. Épicurienne. Parce qu'on se trompe sur Épicure. Épicure, ce n'est pas les plaisirs, la débauche, n'importe quoi. Je cite Épicure lui-même, dans son livre principal, La lettre à Ménécée. Ça se passe entre moins 341 et moins 270. Voici ce que dit Épicure. « Quand nous disons que le plaisir est notre but ultime, nous n'entendons pas par là les plaisirs des débauchés. Le plaisir que nous avons en vue est caractérisé par l'absence de souffrance corporelle et de troubles de l'âme. » On peut être que d'accord avec cette formule. Et pour le bonheur, la sobriété se défie simplement de tous les excès. La sobriété est recherche d'équilibre dans le sens même de l'écologie intégrale, de Laudato Si. Et je citerai le paragraphe 210 de Laudato Si pour définir l'écologie intégrale, au moment où il parle de l'éducation à l'écologie. Voici ce que je le cite du pape François, qu'elle s'étend aux différents niveaux de l'équilibre écologique, au niveau interne avec soi-même, équilibre avec soi-même, harmonie avec soi-même, au niveau solidaire avec les autres, au niveau naturel avec tous les êtres vivants, au niveau spirituel avec Dieu. Et contre les déséquilibres de tous ces niveaux, la sobriété et le comportement pour cette écologie intégrale. Je passe à la dernière partie, la troisième partie. Dans cette troisième partie, on va aborder le bonheur évangélique, en particulier la réhabilitation dans la dignité par le pardon et la victoire sur la mort par l'amour. Alors, d'abord, mes citations. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, dit le Christ. Alors, dit le Christ est dans la citation. Et c'est dans les Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 35. C'est exceptionnel, hein, parce que, évidemment, dans les Actes des Apôtres, il n'y a pas le Christ. Ben là, si. Parce qu'il y a un des apôtres qui dit ça, qui dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir, disait le Christ. » C'est un apôtre qui parle. Autre citation qui va dans le même sens, on pourrait en trouver d'autres, mais j'en prends que deux. « Il n'est pas de plus grand amour que de mourir pour ceux qu'on aime. » On trouve ça dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset, j'arrive pas à m'en lire, 10 à 13. Ces deux idées sont en complète contradiction avec Platon et Descartes. Avec l'écologie, un peu moins. Mais en totale contradiction avec Platon et Descartes. Parce que cette fois-ci, je ne me trouve pas en me cherchant là. Je ne cherche pas à trouver toutes les sécurisations possibles, comme Descartes. Au contraire, le bonheur est dans le risque total, jusqu'à en mourir. L'amour qui est le bonheur, l'amour n'est pas quelque chose d'harmonieux, gentil et nounours. L'amour est don de soi à l'autre, au risque d'en mourir. Donc, ouverture à l'altérité. Et je voudrais continuer dans ce sens, avec d'autres citations qui vont apparaître sans doute à l'écran, si j'arrive à trouver ma feuille. Avec le Christ, la voie du bonheur change complètement de direction. Certes, Dieu, il est un et éternel, donc on est dans la même. Mais il est aussi en trois personnes, et là on est dans le multiple, l'altérité. L'altérité et la multiplicité sont nécessaires à l'amour. Je ne peux pas croire en un Dieu qui ne serait pas Trinité, parce qu'il ne peut pas être amour. Et l'amour, c'est le bonheur. Bon, certes, l'amour, c'est la fraternité qui unit les hommes. La salle s'appelle fraternité, d'ailleurs, à l'inverse du crime ou de la vengeance. Donc, finalement, la fraternité tend vers l'un même. Mais attention, l'amour, lui, avant d'être l'atteinte de la fraternité, l'amour est d'abord exaltation du don de soi, du sacrifice de soi, du renoncement à soi, à l'appel et en faveur d'autrui et de la société. L'amour est ouverture à l'altérité et à la multiplicité, expression éperdue de soi, à destination, à l'adresse d'autrui, jusqu'à en mourir s'il le faut. Le Christ fait la paix, l'un même donc, mais par le sang de la croix, l'autre multiple. Le bonheur n'est pas dans la préservation de soi, comme le croit Platon avec son absolu et Descartes avec sa science. Il n'est pas dans l'évitement de la mort, le bonheur. mais au contraire dans le don de soi qui transvalue, qui transvalue, qui transfigure la mort qui était échec de la vie, en mort réussite de l'amour, réussite de la crucifixion et de la passion, réussite du don de soi. Et un très grand théologien contemporain, même s'il est mort, mais il y a peu, je cherche la référence, excusez-moi, voilà. Le théologien catholique Hans Urs von Balthasar, un Allemand, c'est l'un des maîtres du pape Benoît XVI, ose écrire au sujet de la joie du Christ en croix, c'est suffocant, hein, j'ai mis la citation au tableau, à l'écran, c'est suffocant. Malgré l'infernale désolation de sa dernière heure sur la croix, il n'est pas un seul cœur aussi débordant de vraie joie que celui de Jésus. Une sourde exaltation le transporte secrètement, au-delà de toute possibilité de retour sur le même, sur l'un même, sur soi-même. La joie d'aimer jusqu'au sacrifice, joie de se donner, joie tout entière posée en Dieu. Le paradoxe ici est à son comble. C'est au pire moment de la souffrance et de la mort qu'il y a une sourde exaltation, c'est-à-dire la plénitude du bonheur, le bonheur de l'amour. Et Charles Péguy, lui il est français, un grand écrivain et poète du XXe siècle, on le lit moins en ce moment, l'exprime avec clarté quand il dit que les dieux grecs, tenez-vous bien, sont malheureux. Pourquoi ils sont malheureux, les dieux grecs? Parce qu'ils sont immortels. Et il a tout à fait raison, parce que ces dieux, du fait qu'ils sont immortels, ne peuvent pas aimer. Ils ne peuvent pas se donner à fond. Ils ne peuvent pas se donner jusqu'à en mourir, puisque justement, ils sont immortels. Et je cite Péguy, il est, je crois, à l'écran, « Les dieux grecs n'ont même pas cette chance de pouvoir risquer, de pouvoir espérer risquer la mort, risquer le risque même. Ils sont assurés de ne jamais prétendre à cette triple grandeur. » La différence entre les dieux grecs et le Christ, c'est que le Christ s'est fait homme et que, en tant qu'homme, effectivement, il est mortel et il peut se donner jusque sur la croix. L'autre idée, ce n'est pas la joie-plaisir dont il est question, et finalement ici, c'est la joie-exaltation, la joie-glorification, comme dit l'Évangile. Le don du Christ, qu'est-ce qu'il donne, le don du Christ? Ce que donne le don du Christ, c'est qu'il donne à me donner. Le don du Christ donne à me donner. La formule est de Claude Bruère. C'est-à-dire, me pousse, m'insuffle, m'incline à me donner. Et être aimé de Dieu confère à tout homme une dignité spirituelle absolue qui dépasse et efface ses idées morales, ses indignités morales, pardon, où il se dégoûte de lui-même. Je voudrais qu'on soit bien conscient de ceci, parce que c'est l'enjeu principal de 2021. Le concept qui peut évangéliser, c'est celui de dignité de la personne humaine. Il n'est pas possible de croire en la dignité de la personne humaine. C'est impossible, sauf si on est chrétien. Oh, ça ne veut pas dire que les chrétiens respectent la dignité, hein. Mais ils en ont l'idée. Pourquoi? Parce qu'il est clair que l'homme est indigne. Il est clair que tout homme est moralement indigne. Où voyez-vous la dignité absolue de la personne humaine? Nulle part. La dignité de la personne humaine, eh bien, elle ne peut être comprise que par le pardon qui enlève les indignités morales et par l'investissement, l'incarnation du Christ en chacun qui nous rend divin. Sinon, la valeur d'un homme n'est proportionnelle qu'à ses qualités, ses défauts, ses compétences, ses réussites, ses échecs. L'homme n'a qu'une valeur marchande. Ou bien alors, il a une valeur absolue. Mais s'il a une valeur absolue, c'est par le Christ. Donc le bonheur est là. Il est à la fois dans ce don de soi et dans la réhabilitation de la dignité par le pardon du Christ. Il y a aussi cette idée de Pascal, l'homme dépasse infiniment l'homme. Ben, c'est ce que je viens de dire, seulement Pascal le dit mieux. Ce que dit Pascal, c'est que l'homme n'est pas simplement homme, parce que là, il ne vaut pas grand-chose. Hein. L'homme dépasse infiniment l'homme par l'incarnation du Christ. Et le bonheur, il est là. Bonheur de la dignité, au lieu de se dégoûter de l'humanité et se dégoûter de nous-mêmes, ce qui est le lot de l'occidental d'aujourd'hui, il y a cette possibilité de retrouver notre honneur et notre grandeur. Mais pour ça, il faut être vulnérable. En plagiant, excusez-moi, les béatitudes, on pourrait dire heureux les vulnérables parce qu'ils peuvent aimer, ils peuvent se donner. Hein, c'est l'histoire des dieux grecs immortels qui ne sont pas heureux du tout parce qu'ils sont immortels. Voilà ce que je voulais dire essentiellement sur cette troisième partie. La conclusion va être très rapide. C'est d'abord l'idée que l'histoire de la philosophie est imprégnée du christianisme. Moi, c'est ce qu'on m'avait appris. Moi. Mais quand j'ai essayé de voir par moi-même, j'ai rien trouvé. Qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que soit les philosophes croient en Dieu, mais alors c'est un Dieu qui leur sert à garantir leur propre philosophie. C'est le cas de Descartes, c'est le cas de Kant, mais d'autres. Mais si je cite Descartes et Kant, c'est des poids lourds. Hein. Ou bien alors ils ne croient pas en Dieu. Sartre, Nietzsche, pour rester dans l'ordre chronologique, Nietzsche, Sartre. Mais alors, ils sont contre un Dieu qu'on ne connaît pas, nous, ce n'est pas le nôtre. Ils sont contre un Dieu justicier, un Dieu qui punit, et non pas un Dieu qui sauve. Ils ne parlent pas du tout de dignité de la personne humaine. Ils ne parlent pas du tout de don de soi, qui est le bonheur même. Bref, ils nous parlent d'un Dieu qui... Ce n'est pas le nôtre, hein. Ce n'est pas où il est celui-là. Heureusement, mais je n'ai pas le temps de développer, il y a des gens comme Pascal quand même, hein, comme Blaise Pascal. Donc finalement, la conclusion, c'est que le bonheur, c'est aimer l'amour avec un grand A, pas pour le plaisir de mettre des majuscules, mais parce qu'il s'agit bien de Dieu. Merci de votre attention.